Radio Okapi.
Le journal, c'est avec Christian Makasinga.
À la une de l'actualité, en Ituri, les acteurs de la société civile d'Arou renforcent la riposte contre Ebola. Leur mobilisation a conduit à la suspension temporaire du transport en commun sur plusieurs axes. À Kananga, la déclaration de la Sanko contre tout changement de la constitution continue de diviser une partie du clergé catholique. Les vicariats généraux appellent les fidèles au calme et à l'unité. Notre invité est Alexandre Laouaï, chef du programme de réadaptation physique du CICR au Nord Kivu. Il présente des actions menées en faveur des victimes des guerres et les défis de leur prise en charge. Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans ce journal. L'église catholique de Kananga en pleine zone de turbulence, au cœur de la discorde, la prise de position de la Sanko contre tout changement de la constitution. Certains prêtres et fidèles de cette archidiocèse contestent ouvertement cette décision. Ils estiment qu'il s'agit d'une simple prise de position et non d'une décision qui s'impose à tous. Face à cette polémique, les vicariats généraux de l'archidiocèse de Kananga appellent au calme. Dans un message publié hier samedi, ils dénoncent les discours de haine sur les réseaux sociaux et invitent les chrétiens à préserver l'unité autour de leurs évêques. Le point avec André Katendenga Lamouloumé.
Un seul cœur et une seule âme, c'est le titre du message publié par les vicariats généraux de l'archidiocèse de Kananga. Depuis la déclaration de la Sanko le 19 juin dernier, le climat est électrique. L'épiscopat y rejette toute révision constitutionnelle. Mais à Kananga, la pilule a du mal à passer. Certains fidèles et même des prêtres de l'archidiocèse se sont opposés publiquement à la décision des évêques. Face à cette fronde, les autorités de l'église veulent apaiser les tensions. Elles dénoncent des manipulations et des discours de haine qui enflamment les réseaux sociaux. Le vicariat appelle les fidèles à faire preuve de prudence. Il les invite à ne pas se faire entraîner par les informations qui alimentent la haine et la division. Le message réaffirme également le soutien de l'archidiocèse à son archevêque, Monseigneur Félicien Tamboué. Selon les vicaires généraux, s'il a paraphé le document de la Sanko, c'est au nom de la collégialité épiscopale. L'archidiocèse appelle les fidèles à l'apaisement, à la communion et à l'unité autour de leurs évêques. Kananga, André Katendenga Lamouloumé, Radio Okapi.
La paix se construit aussi sur le banc de l'université. C'est dans ces cadres qu'une trentaine de jeunes leaders universitaires du Matadi ont été formés pendant trois jours sur la résolution 2250 du Conseil de sécurité des Nations Unies relatif à l'agenda jeunesse paix et sécurité. L'objectif est de les outiller afin qu'ils deviennent à leur tour des relais de sensibilisation dans le milieu étudiantin sur les questions de paix, de cohésion sociale et de prévention des conflits. Que retenir, Elise Kavira?
Au cours de cette session, les participants ont été formés sur les différents piliers de la résolution 2250 qui reconnaît le rôle essentiel des jeunes dans la consolidation de la paix. Caleb Mwamba, président des étudiants de l'Université libre de Matadi, partage ses impressions.
Il est vrai que la jeunesse actuelle est à la merci de plusieurs bavures, mais cela n'est pas une barrière pour nous. C'est juste un obstacle que nous allons devoir remonter parce que cette jeunesse a besoin d'un changement. Et ces changements, c'est en s'appropriant aussi de la résolution 2250.
La jeunesse est souvent présentée comme l'espoir des demain, une conviction que partage cette structure des jeunes engagés dans la promotion de la paix.
Nous représentons le 60% de la population du Congo. Nous avons cette charge-là de mener le Congo haut et fort.
Pour la formatrice Anima Tundu, il est essentiel que les jeunes s'approprient la résolution 2250 et la fassent connaître afin de mieux défendre leurs droits et contribuer activement à la construction de la paix. Ces jeunes leaders universitaires sont appelés à porter le message de la résolution 2250 dans les auditoires et au sein de leur communauté. Matadi, Elis Kavira, Radio Okapi.
Je l'ai dit au sommaire, en Ituri, les transports en commun entre Bunia, Mungwalu et Arou est suspendu momentanément. Cela fait une semaine que la mesure est d'application. Il s'agit d'une décision prise par les transporteurs après une campagne de sensibilisation menée par les acteurs de la société civile. Le but est de limiter la propagation de l'épidémie d'Ebola. Les territoires d'Arou comptent déjà 7 cas confirmés, dont 4 décès. Les leaders communautaires appellent les autres territoires de la province à suivre cet exemple afin de renforcer la lutte contre l'épidémie. Isaac Rémoyopé.
Le territoire d'Arou est désormais touché par l'épidémie d'Ebola. Selon les autorités sanitaires, 7 cas confirmés y ont été enregistrés par les équipes des ripostes. 4 cas ont été recensés dans la cité d'Arou, dont un décès, tandis que 3 autres ont été signalés à Aoumba où tous les patients sont décédés. Face à cette situation préoccupante et au mouvement important des voyageurs entre Bounia, Mungwalu, épicentre de l'épidémie, et Arou, les acteurs de la société civile ont multiplié les actions de sensibilisation. Ils ont notamment rencontré les responsables des agences de transport par bus et véhicules afin de leur demander de suspendre temporairement le trafic sur ces accès routiers pour réduire les risques de propagation du virus. Depuis plus d'une semaine, cette mesure est effectivement appliquée. Le député provincial Antoine Mopepe salue cette initiative. Il appelle les autres entités de la province où l'on observe encore une certaine résistance aux mesures de riposte à suivre cet exemple afin de contribuer à contenir la propagation de l'épidémie.
Ce serait au niveau des autorités politico-administratives qu'une telle mesure pouvait sortir. Les autres responsables dans d'autres territoires peuvent aussi emboîter les mêmes pas et ça pourra permettre à ce que nous puissions ensemble lutter contre cette maladie.
Pour rappel, les autorités ont également suspendu des vols commerciaux entre Bounia et Arou dans le cadre des mesures de lutte contre l'épidémie d'Ebola. Bounia, Isaac Remoyope, Radio Kapi.
Alerte une fois de plus de la société civile dans le sud du territoire du Roumois à Nitouri sur le massacre de civils perpétré par les rebelles des ADF. Dans une déclaration faite hier samedi à Bounia, ces structures citoyennes demandent aux nouvelles autorités provinciales de lancer sans tarder de nouvelles opérations militaires contre ces rebelles. Ces derniers commettent des atrocités contre la population, notamment sur l'axe Kamanda-Luna, et c'est là depuis plusieurs années. Martial Kisabiamungu.
Selon la société civile du sud du territoire d'Irmo, les atrocités commises par les rebelles des ADF ont déjà coûté la vie à des milliers de personnes ces dernières années. Massacres à répétition avec enlèvement de civils, dont des femmes utilisées comme esclaves sexuels, incendies de maisons, c'est les calvaires que vivent les populations de nombreux villages de Chefiri, de Walé-Sevoncouto, de Basili et de Banyali-Tchabi, situés sur l'axe Komanda-Luna, Komanda-Mambasa, Mont-Oyo, Tchabi, ainsi que dans la région des Zungulouka. Face à ces tableaux sombres, la société civile locale demande aux autorités provinciales de maintenir la pression sur ces rebelles dont les attaques continuent d'affecter plusieurs localités du sud de Diromou. Son président Pascal Kisezo indique que, je cite, l'activisme des ADF mérite une attention particulière pour préserver la stabilité dans la région afin de permettre aux populations d'accéder de nouveau dans leurs champs sans être inquiété. Fin de citation. Bounia, Martial Kisabiamungu, Radio Okapi.
Pendant ces temps au sud Kivu, des déplacements massifs de la population sont signalés depuis plus de 2 semaines dans plusieurs agglomérations autour de Minembwe Centre dans le territoire de Fizi. Selon les sources de la société civile locale, ce mouvement est consécutif au bombardement de drones utilisés par des rebelles tiroanéos appuyés par des troupes étrangères. Ces informations sont corroborées par l'administrateur du territoire de Fizi qui dresse un bilan de 50 civils tués sur cette période. Sami Badibanga explique l'usage de ces drones par les rebelles appuyés par les Rwandais, des coups de position stratégique qu'ils occupent dans la région. Sami Badibanga est au micro de Ronelly Tibonera.
Ça fait plus de 3 décennies que cette souffrance continue. Cette souffrance est devenue chronique. Toutes ces morts, toutes ces atrocités commises sur les populations, les femmes violées, et les femmes décapitées, les enfants mutilés, les enfants où on a amputé les bras, où on a amputé les doigts. Nous avons les cimetières le plus long du monde. Nous avons un deuil qui est un deuil plus que national. Les cris de la population de l'Est est que la paix revienne. Et cette communauté qui a armé le Rwanda, cette communauté qui soutient le Rwanda doit comprendre que le Congo a besoin de la paix et que la population de l'Est a besoin de la paix. Trop c'est trop, nous voulons la paix, nous voulons que cette paix nous revienne de plus droit pour que nous puissions aussi de notre tour développer notre chef pays. Nous soutenons les efforts consentis par le président de la République, chef de l'État, pour les sacrifices consentis afin que la paix revienne sur cette partie orientale de notre pays.
Les trafics sur la rivière Lomami est totalement à l'arrêt depuis 1 mois. En cause, la panne simultanée de 2 moteurs du bac Makolé immobilisés à près de 40 km de Lubao et 160 km de Kabinda, chef-lieu de la province de la Lomami. Depuis, la traversée ne s'est fait plus qu'à bord de pirogues artisanales, ce qui expose les passagers et les marchandises à des risques accrus. Des explications avec Esther Ndadafina.
Sur le site du Bac Makolé, les activités économiques tournent au ralenti. Ce bac qui relie les villages du territoire de Lubao à ceux de Cabinda est un passage stratégique pour les commerçants et transporteurs. Mais depuis la défaillance de deux moteurs du bac, le trafic est suspendu. Les cargaisons parfois de plusieurs tonnes s'entassent sur la rive, faute de moyens sûrs pour les transborder. L'office des routes reconnaît que le moteur était vétuste et ne pouvait plus assurer la navigation. L'institution affirme avoir transmis un devis pour l'achat des deux nouveaux moteurs ainsi que la réhabilitation complète du bac aux autorités provinciales et nationales. Aucune réponse officielle n'a encore été communiquée. En attendant, la traversée de la Lomami est devenue un véritable calvaire. Les opérateurs économiques redoutent les noyades, la perte de marchandises et les accidents mortels. Les pirogues, souvent surchargées, ne sont pas adaptées au transport de lourdes cargaisons. Certains commerçants affirment que leurs produits périssables sont déjà perdus. D'autres craignent une hausse des prix dans les villages enclavés faute d'approvisionnement régulier. Esther Ndalafina Mbujimayi, Radio Okapi.
Direction province du Tanganyika, les enseignants matriculés non payés des écoles du territoire de Niouzou revendiquent leur salaire. Dans une déclaration faite ce samedi, ces enseignants affirment avoir été mécanisés depuis 2022, mais ne reçoivent pas de salaire. Ils sollicitent intervention des autorités du secteur de l'éducation pour qu'une solution soit trouvée. Le chef de la sous-division de l'enseignement Niouzou 2 confirme que les enseignants de plusieurs écoles du territoire sont concernés par cette situation. On écoute Lucien Kasongo, enseignant de l'Institut Moulimba de Niouzou, au micro de Pauline Mounanga.
Ça fait déjà plusieurs années que nous sommes dans la difficulté concernant la paye de nos matricules. Nous avions été contrôlés, je pense, par son excellence monsieur Willy Bakonga, c'était en 2020. Il est juste arrivé en 2022, au mois de février, nous avions eu les matricules. Et arrivé au mois d'avril, nous avions aussi vu certaines écoles, comme les écoles primaires surtout, qui étaient aussi mécanisées à cette période, dans la même année. Mais, chose étonnante, c'est voir au mois de juin, les écoles sorties après nous, les écoles primaires, je pense que certaines écoles secondaires sont payées, mais nous nous sommes restés comme cela. Depuis 2022 jusqu'à maintenant, nous n'avions pas de solution sur notre mécanisation. Il arrive des fois que les contrôles viennent, nous passons au contrôle, mais on n'aboutit à rien. Dans des écoles, ça ne marche pas avec le minable prime de parents qu'on reçoit, c'est compliqué. C'est pourquoi nous voulons ainsi nous présenter comme des personnes sans voix pour un peu essayer avec la société civile de contacter l'hiérarchie, si on peut trouver quand même une solution appropriée pour que nous puissions aussi être souvenus par le gouvernement central.
Finissons au Nord Kivu, la protection de l'enfant reste un défi majeur pendant les vacances scolaires, particulièrement à Walikal où persistent de multiples menaces sécuritaires. L'ONG Groupe d'Action pour la protection de l'enfant dit avoir documenté au cours des 10 derniers jours 7 cas de noyades et 56 cas de recrutement d'enfants par des groupes armés. Selon son coordonnateur, la présence de nombreux sites minés attirant les enfants pourrait aggraver la situation. Tout en mettant en place des espaces d'encadrement dans plusieurs centres du territoire, les GAP appellent les parents, les autorités locales à renforcer la protection des enfants durant cette période. Bamsa Bayomba Mishiki, coordinateur de l'organisation, fait le point au micro de Bernadette Nyangui.
Depuis le 28 juin, il y a 7 cas de noyade. 3 cas ici à Walikale Centre, dans la rivière Loa et Kouya. À Hombo, il y a 2 cas. À Biungu, il y a 1 cas dans la rivière Makoma. À Pinga, il y a 1 cas. Aussi, avant la clôture de l'année scolaire, le 2 juillet, nous avons enregistré au moins 56 enfants qui sont déjà intégrés. Les forces et groupes armés. Vraiment, il y a délaissement des enfants dans cette période de grandes vacances. C'est pourquoi on a songé à sensibiliser les parents concernant la protection de l'enfant dans la grande vacance du juillet au mois de septembre. Nous sommes en train de faire beaucoup de plaidoyer aux autorités politiques et administratives. La place des enfants, c'est à l'école et en famille. Mais ce n'est pas dans les sites miniers, dans les groupes armés. Puis nous avions organisé les espaces amis d'enfants à Walikale, à Hombo, à Itebero. Nous sommes en train d'occuper les enfants dans cette période ici dans le territoire de Walikale.
Actualité internationale.
Au Mali, les affrontements se poursuivent ce dimanche 5 juillet à Nefi, dans le nord du pays, entre l'armée malienne appuyée par des mercenaires russes et une coalition de groupes du djihadiste affiliés à Al-Qaïda et à des indépendantistes du Front de Libération des Lazawad. Les rebelles contrôlent toujours cette localité stratégique et détiennent des soldats maliens. Les forces régulières restent retranchées dans leur camp militaire, tandis que des hélicoptères venus évacuer les blessés n'ont pas pu atterrir. Selon une source militaire, tout est mis en œuvre pour prendre le contrôle de la situation.
L'invité.
En République démocratique du Congo, le CICR accompagne chaque année près de 4000 personnes dans son programme de réadaptation physique. La moitié d'entre elles se trouve au Nord-Kivu et dans cette province, 80% des bénéficiaires sont des victimes directes de conflits armés. Cette aide consiste à fournir des prothèses, des orthèses, mais aussi à réparer, à entretenir ces appareils essentiels à l'autonomie. Pour comprendre l'impact de ces travaux, nous recevons aujourd'hui Alexandre Laouaï, le chef de ce programme pour les Nord-Kivu. Il s'entretient avec Rosalie Zawadi.
Monsieur Alexandre Laouaï, bonjour.
Bonjour, madame.
Ce programme, il est opérationnel dans combien de structures dans la province?
Au niveau du Nord Kivu, on a, on peut dire, une structure qui est plus fonctionnelle et qui s'appelle le centre Chiri Kalamuja, où on appuie ce centre en composante pour le fonctionnement des services de réadaptation. On est en train d'étudier la possibilité vers le Grand Nord avec Beni, où on aura un appui ponctuel, parce qu'on a des anciens bénéficiaires qui ont eu déjà des services et qui auront besoin de réparations. On est en train d'étudier la possibilité d'apporter un appui ponctuel en matériel pour assurer le minimum de réparations.
En parlant du programme de réadaptation physique, quelles réparations faites-vous et qui sont concernées?
Voilà, quand on parle de programme de réadaptation, nous avons les services, qui ce sont orthèses, prothèses, cannes, fauteuils roulants. Et quand on parle de réparation, là, on voit peut-être au niveau, beaucoup plus au niveau des prothèses et des orthèses. C'est-à-dire quand un bénéficiaire a une prothèse, donc ça s'est fait au centre de réadaptation, comme Chiri Kalamuja. Donc au bout de quelques années, la prothèse peut avoir certains problèmes. Souvent, c'est les pieds qui peuvent être cassés, ou bien une ceinture peut être arrachée. Et là, soit le bénéficiaire vient au centre pour assurer ses réparations, que ce soit majeur ou mineur, mais quelquefois ils restent dans leur communauté avec ses soucis de réparation, et si rien n'est fait, ces bénéficiaires abandonnent leur appareil. C'est pourquoi c'est important dans nos programmes de réadaptation physique de penser à ces composantes pour assurer les réparations. Par exemple, si je prends le cas de Beni, où il y a un service qui fonctionne et qui n'a pas assez de professionnels de santé pour assurer ces réparations, le CICR assure cette continuité en fournissant de petits matériels, par exemple que ce soit les pieds, les composantes, les mousses. Donc ça permet aux professionnels qui travaillent dans ce centre d'assurer ce minimum, bien qu'on n'a pas un accord de collaboration clair et signé.
Depuis l'année passée, combien de personnes ont bénéficié de ces services?
Donc chaque année, on prévoit 4000, au maximum 4000 bénéficiaires, et surtout qu'on n'est pas limité beaucoup plus au Nord Kivu, mais on a aussi d'autres centres. Mais au Nord Kivu, c'est le foyer l'épicentre où on a beaucoup de blessés et beaucoup de patients qui nécessitent l'appareillage. On peut aller dans les 2000. Donc c'est ce que je peux dire en termes de chiffres. Et ce qui est important sur ces 2000 bénéficiaires qui sont attendus dans ce centre, environ 80% sont liés direct au conflit, ce qui explique notre présence.
Et de ces victimes des conflits au Nord Kivu, quel est le pourcentage des femmes, des enfants qui sont aussi affectés par les conflits?
On n'a pas de chiffres réels en ce qui concerne les pourcentages, mais ce qu'il faut retenir, on a beaucoup plus d'hommes qui fréquentent parce que c'est directement lié au conflit. Donc comme on prend en charge toutes les couches d'individus, que ce soit civils, militaires, hommes, enfants, donc la répartition, une tendance beaucoup plus directe liée au conflit qu'on remarque beaucoup plus
dans. Et dans ces programmes de réadaptation physique du CICR, à quels défis faites-vous face?
Alors on a beaucoup de défis. Le nombre 4000, c'est énorme. Si on compte les techniciens qualifiés qui doivent travailler dans ce centre de réadaptation, on est en nombre très insuffisant. Imagine si on prend un exemple du Nord Kivu, ici avec le support des centres Chiri Kalamuja, nous avons que 2 techniciens qui doivent travailler pour 2000 bénéficiaires dans l'année. Vous voyez qu'il y aura des gens qui vont attendre beaucoup longtemps pour avoir les services. Et puis, dans le contexte où il y a encore l'épidémie qui sévit, où les fermetures des frontières, l'inexistence des banques, donc on a des problèmes de cash pour faire fonctionner les centres. Et puis, avec la fermeture des axes, les bénéficiaires pour quitter de leur zone pour venir au centre ça est un sérieux problème.
Qu'est-ce que vous faites maintenant pour continuer à travailler malgré ces défis?
Au sein du programme, on a le programme de renforcement des capacités, ce qui fait qu'on détermine un certain nombre de bourses pour assurer la formation initiale. La formation n'est pas au Congo, mais ça se fait dans d'autres pays francophones comme le Togo. Et maintenant, en local aussi, la présence de l'équipe CICR dans les centres, ça permet d'organiser des formations de courte durée pour augmenter le niveau des professionnels qui travaillent dans ces centres de réhabilitation.
Alexandre Lawayi, merci.
Merci beaucoup.
Cet échange met fin à cette grande édition de 18h présentée par Christian Makasinga sous la supervision de Lévin Mwinga et Jean-Désiré Kanyama à la coordination. Pierre Diassinois a assuré la mise en onde. Merci de votre fidélité à Radio Okapi, la fréquence et la paix. Retrouvez ce journal en podcast sur notre site et suivez l'actualité en continu sur www.radiookapi.net ainsi que sur nos différentes plateformes numériques. Excellente soirée dominicale à toutes et à tous. Rendez-vous à 19h pour les derniers bulletins d'information de ces dimanches.